إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل قراءة التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد توقفنا فيما مضى عند سورة النازعات في قوله عز وجل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى نعم هل حسن تخلص الله لا لا تستطيع أخي تغيستي تفضل من قوله هل أتاك حديث موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
حسبك بارك الله فيك حسبك أحسنت جيد ما شاء الله خنا فتحي أمام شوز هل أتاك حديث موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
نعم حسنا بارك الله فيك جزء للطوى إن شاء الله خلاص بيان أنا بخنونسي كمان طوى إبا كمان تا توى توى سين تا طو توى نعم تنسيون سي أمتي بو الأعلى الأعلى مازي
الأعلى
voilà de pas faire de qalqala sur le عين الأعلى الأعلى il y a une petite qalqala tout à l'heure la première fois الأعلى
الأعلى
voilà طيب فقال لا إذن قال شيخ العثيمين رحمه الله فذهب موسى صلى الله عليه وسلم وقال لفرعون ما أمره الله به أي هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما أنه لا يقبل أو لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة، جعل الله سبحانه مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال تعالى فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى أي العظمى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع شجر، كما هو معروف عصا من خشب، فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن شيئا جمادا، العصا جماد كالحصى جماد كذلك، إذا وضع على الأرض أو إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حال إلى حاله الأولى. وجدت تعطفي البصاج تعطفي صبا شتبوا تشاهد شتبوا تشاهد شتبوا تشاهد وجدت شتبوا تشاهد إلى حاله الأولى. إلى حاله الأولى عصا من جملة العصي. وإنما بعثه عليه السلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، ليس بياض عيب السوء مرض، لا، بيضاء بياضا ليس ببياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بالعصا واليد لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله سبحانه بشيء يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام. طيب. Donc on passe au verset numéro 18 et 19 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que donc il a ordonné plutôt à Moussa d'aller voir Pharaon et de lui dire هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّ، donc en gros de l'inviter à se purifier, à se réformer. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ، afin que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. فَتَخْشَ que tu aies la khashya. On a vu la différence entre Al-Khashya et Al-Khawf. C'est quoi Al-Fart entre Al-Khashya et Al-Khawf?
La différence entre Al-Khashya, c'est de l'ilm, et Al-Khawf, c'est sans
le ilm. Non, non, non. Al-Khashya, c'est Al-Khawf, Al-Mas'houb bil-ilm. Al-Khashya, c'est une peur, c'est la peur, mais qui est accompagnée de science. Ça, Al-Khashya. D'accord ? Non. Donc, il est parti, Moussa, alayhi salam, pour lui dire cela par ordre de son Seigneur. Il dit, le Cheikh, lorsque les gens, l'être humain, ne croit pas ou n'accepte pas la parole ou la prétention d'une personne comme quoi c'est un messager, sans qu'il ne vienne avec une preuve. L'être humain est comme ça. Quelqu'un, il vient, il te dit, je suis un messager d'Allah. Il ne va pas forcément accepter sans preuve. Il va demander une preuve, quelque chose, un signe. D'accord ?
va prouver qu'il est vraiment un envoyé d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est pour cette raison que Allah tabarak wa ta'ala a envoyé avec chaque messager des signes, d'accord, qui prouvent leur véracité, qui prouvent leur véracité. Vous voyez, d'ailleurs c'est pour ça que Ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il a rapporté un des hadiths les plus connus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa huwa sadiqu al-masduq. Il a défini le prophète comme étant as-sadiq al-masduq. C'est quoi la différence entre les deux, entre sadiq et masduq? As-sadiq, c'est quoi as-sadiq? Quelqu'un qui est sadiq.
Ton ami proche.
Là, c'est as-sadiq. Non, juste as-sadiq avec al-mad بعد الدال صديق, ça c'est un ami. Un ami. Mais là on parle de as-sadiq. Mad بعد الدال as-sad. Tu vois, on voit que en déplaçant un mad, on change carrément le sens. Donc as-sadiq, celui qui dit la vérité. As-sadiq fi ma akhbar. As-sadiq fi ma akhbar. طيب, مثلا اخ حسن ينجي قدم زيد. زيد est arrivé. Si زيد est vraiment arrivé, حسن il est صادق. Il a dit la vérité. Il a dit une parole qui est conforme à la réalité. D'accord? Il est صادق. Maintenant, moi حسن il me dit قدم زيد. Il me le dit à moi. Et c'est un fait, زيد il est vraiment arrivé. Un homme صادق. Moi, je suis un masdour. Parce qu'on m'a informé d'une vérité. On m'a informé d'une vérité. Il donne un masdour. D'accord? Lui, il est sadiq. Lui, il est sadiq. Et cette vérité-là, il l'a transmise à moi. Un masdour, dans ce cas-là. Lui, il est sadiq.
Tu ne veux pas dire que tu le rends véridique?
Ça, c'est pour sadiq.
Ah, bon.
Là, on parle de masdour maintenant. Ouais. Le masdour, c'est celui qui a reçu une vérité. C'est pour ça qu'il a dit que le prophète, il est sadiqun masdouqun. Il est sadiq parce qu'il dit la vérité, il ne ment pas. Et il est masdouq parce qu'il reçoit la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? Je crois que tu n'as pas compris. As-sadiqu fi ma akhbar wa al-masdouqu fi ma ukhbir. As-sadiqu par rapport à ce qu'il dit et al-masdouqu par rapport à ce qu'on lui a dit.
D'accord.
Par rapport à ce que Jibril lui a dit. Jibril lui a dit la vérité. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de temps? Non. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé ses messagers avec ces signes-là pour prouver leur véracité et qu'ils sont des sadiqoun masdouqoun. Il dit ici, fa'arahu al-ayat al-kubara. Donc arahu, qui est-ce qui fait l'action ici? C'est Moussa alayhi salam, dans le verset. Fa'arahu, et il lui a montré. D'accord? Le verbe ara, c'est montrer. Ra'a, voir. Ra'a, voir. Ara, montrer à quelqu'un quelque chose. Donc, fa'arahu, donc il a montré à qui est Fir'aoun, al-ayat al-kubara. Donc, l'ayat al-kubara, al-udhma, c'est-à-dire le plus grand signe, la plus grande preuve. D'accord? Parce qu'on a les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont devant nous, la création d'Allah. Le soleil, les montagnes, le ciel, la terre, ça c'est des créations, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, l'ayat al-kubra, le plus grand signe, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. De l'ordinaire. Qui sont encore plus grandes du coup que les choses qu'on voit tous les jours. D'accord? Ces choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qui sont contraires, on va dire, à ce que l'on voit d'habitude.
Des miracles.
Des miracles, mais donc quels sont ces signes-là? Premièrement, le signe qu'Allah il a donné à Moussa, alayhi salam, le bâton. Le bâton qui était fait de bois, hein, une branche d'arbre, yani, d'ailleurs, un bâton de bois, qui lorsque Moussa, alayhi salam, le posait par terre, il s'est transformé en serpent. Un serpent, yani, qui rampait, qui bougeait. Un vrai serpent.
C'était un vrai serpent.
Un vrai serpent.
C'est les autres qui faisaient.
Non, un vrai serpent qui bougeait. Voyez, et lorsque il le récupérait, il le reprenait dans sa main, le bâton redevenait instantanément un bâton. Un bâton fait de bois, etc. D'accord ? Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé avec ce premier signe-là. Et le deuxième, le fait que lorsqu'il introduisait sa main dans une des ouvertures de sa tunique ou de son qamis, d'accord, il la ressortait, quand elle ressortait, elle était blanche. Mais pas d'une blancheur résultant d'une maladie, comme l'albinisme. Hein, ceux qui sont
albinos,
na'am, vous voyez, ils ont des taches blanches sur la peau.
Ah non, c'est la lèpre.
La lèpre, Allah, c'est ça aussi, c'est une maladie, la lèpre. Elle est autour de peau qui fait apparaître des taches blanches. D'accord ? Hein ?
Comme Michael Jackson.
Il s'est fait opérer, il est sympa.
Et tout blanc, la lèpre, ils ont des taches.
Ah ouais ?
Oui, les albinos.
Albinos, c'est pas des taches, albinos, c'est tout blanc.
C'est par exemple un noir qui va être blanc, tout
de partout.
Blanc, aux yeux bleus.
Non. Albinos, il neige comme ça.
Aux yeux rouges.
Un peu, ouais, un peu. Oui, c'est des gens qui ne voient pas bien. Ils ne voient pas dans la journée, le jour.
Ils ne
voient plus dans la nuit.
Taïe. Donc là, c'est plus des taches blanches, la lèpre. D'accord. Taïe. El Mohim, ce n'est pas une blancheur résultant d'une maladie. D'accord. Au contraire, c'était une blancheur pure. Pure, qui ne faisait pas mal aux yeux. D'accord. Non. Donc Allah tabarak wa ta'ala l'a envoyé avec ces deux signes, le bâton et cette lumière, cette blancheur qui sortait de sa main, qu'il avait sur sa main. Et donc il faut savoir que à l'époque de Moussa alayhi salam, l'art dans lequel les gens étaient puissants, c'était la magie, la sorcellerie. Hein, quand j'ai l'art entre guillemets, hein, d'accord ? Ils étaient forts dans la magie. C'était une science dans laquelle ils étaient très forts, très puissants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a envoyé Moussa alayhi salam avec ces deux-là pour justement montrer le mensonge et la faiblesse de ces sorciers. D'accord ? Et que ce qu'ils font n'est rien comparé au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour combattre les sorciers donc qui se sont confrontés à Moussa alayhi salam. Donc c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne certains signes à des prophètes et d'autres signes à d'autres prophètes, c'est justement par rapport aussi à l'époque dans laquelle il vit. Il n'a pas donné ces signes là au prophète Isa alayhi salam, comme il ne les a pas donnés à Muhammad sallallahu alayhi salam. Pourquoi? Parce que les époques étaient différentes. ولهذا قال أهل العلم وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام انتشر الطب انتشارا عظيما فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بري فإذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة مسحه بيده ثم بري بإذن الله كما قال جل وعلا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله سبحانه فيبرئ الأكمه الذي خلق بلا عيون الأكمة الذي ولد أعمى هذا هو الفرق بين الأعمى والأكمة الأكمة يولد أعمى طيب والأعمى الذي لا يبصر أو افتقد بصره وأشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله سبحان الله عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله يؤتي إليه أو يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة وأشد من ذلك وأبلغ من ذلك أنه يخرج الموتى بإذن الله من قبورهم يخرج الموتى من قبورهم يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا فهذا شيء لا يمكن لا يمكن لأي طب أن يصل أو يبلغ ولهذا كانت آية عيسى عليه السلام في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس طيب donc les gens de science ils disent par rapport à Isa par exemple Isa alayhi salam à son époque à lui c'était la médecine qui était répandue hein, les gens yani excellaient dans la médecine il y avait beaucoup de science dans cette chose là donc Isa lui il est venu du coup avec des signes des preuves qui ont montré en fait l'incapacité de ces médecins-là à faire ce qu'il faisait lui pour montrer aux gens que il est vraiment envoyé d'Allah tabarak wa ta'ala. Par exemple, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une infirmité ou un handicap et qui était essuyé par la main de Isa alayhi salam sans qu'il ne guérisse de son handicap ou son infirmité. Hein? On lui a amené par exemple quelqu'un d'infirme ou malade ou handicapé. À peine il touchait la personne avec sa main, il essuyait avec sa main. D'abord, il essuyait avec sa main que la personne guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui-même, il le dit Wa tubri'u al-akmah wal-abras. Et tu guéris l'aveugle, le nez. Al-akmah, c'est pas comme l'a'ma. L'a'ma, c'est l'aveugle. Ce peut que la personne soit née avec la vue, puis des fois, avec les années, durant la jeunesse, ou l'âge adulte, tu perds la vue. T'as vu? Lui, on dit qu'il est a'ma quand il perd la vue. Mais celui qui naît aveugle, on dit qu'il est akma. Akma. Donc là, Allah, il dit, et tu guéris l'aveugle né, l'akma, ou l'abras, celui qui a la lèpre, le lépreux. D'accord. Bien que la lèpre, il dit les chers, il n'y a pas de remède vraiment contre la personne née comme ça. D'accord. Et bien malgré ça, Isa alayhi salam soignait ce lépreux-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il soignait même l'aveugle. Un bébé qui naît aveugle, et bien Isa alayhi salam lui rendait la vue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est déjà yani, quelque chose d'extraordinaire. Bien, il a fait plus que ça encore. Il a fait plus que ça. Il redonnait la vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui amenait le corps d'un mort, on le mettait devant lui, puis il se mettait à parler avec le mort, jusqu'à ce que la vie revienne dans le corps du mort. Et plus que ça encore. Le mort qui a été enterré, il le faisait sortir de sa tombe. Il le faisait sortir de sa tombe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se mettait devant la tombe et il appelait le mort qui était enterré à cet endroit-là et le mort est sorti vivant. Ajib. Donc cette chose-là, bien sûr, est impossible. Même tu peux aller voir le meilleur des médecins qui soit, hein. Il lui est impossible de faire ce qu'a fait Isa alayhi salam. Donc c'est pour ça que, encore une fois, Allah tabarak wa ta'ala, il a donné à Isa ces miracles, ces signes, car ils étaient conformes à l'époque dans laquelle il était, où la science de la médecine était propagée et était très, très maîtrisée. فقال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى إلى العرب والعرب يتفاخرون في الفصاحة، الفصاحة الشعر، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كان بعضهم يعاون بعضه فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى، الآية الكبرى، ولكن لم ينتفع بالآيات. قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية، والعياذ بالله. سبحان الله، نعوذ بالله من هذا الضلال. لهذا قال: فكذب وعصى، أي كذب الخبر. Donc les gens de science ils disent quant au messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux Arabes, à tous les êtres humains bien sûr, hommes et femmes, ainsi que les djinns, mais dans un peuple arabe, parmi les Arabes. Et les Arabes à son époque, leur fierté, d'accord, c'était al-fasaha, l'éloquence. C'était vraiment leur fierté. Et ils voyaient que l'éloquence était la plus grande qualité chez l'homme. Plus que tout, c'était l'éloquence. D'accord ? Donc celui qui était éloquent, il était bien placé dans la société. Il avait de l'argent, il était, hein, c'était le protégé du roi, ou du chef, du clan ou de la tribu. D'accord ? Il avait tout ce qu'il voulait. Na'am. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu du coup avec ce Coran noble, hein, qui a montré aussi donc du coup la faiblesse en vérité et l'incapacité de ces grands orateurs et poètes et éloquents de reproduire un verset de ce Coran-là. Taïeb, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Isra, le sens rapproché, dit: si les hommes et les djinns se réunissaient afin de reproduire quelque chose de semblable à ce Coran, eh bien ils n'y arriveraient pas. Là, il y a tout un abîme fini. Ils ne produiraient rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns aux autres. Donc même s'ils se réunissent et ils s'associent dans le fait de reproduire un genre de courant semblable à celui-là, il n'y arriverait pas. C'est pas possible. C'est pour ça que donc Moussa alayhi salam, il est venu et a montré à Pharaon ses signes, conformément à ce dont ils avaient besoin à son époque par rapport à la sorcellerie et à la magie. Mais Pharaon n'a pas profité de ces signes. Donc malgré tous ces signes-là, subhanallah, bien qu'il ait vu même ses propres sorciers, et à y reconnaître la véracité de Moussa alayhi salam, il n'a pas accepté. Regardez, subhanallah, il n'a pas accepté. Mais dit Allah subhanahu wa ta'ala, le sens rapproché, ni les versets, ni les messagers ne seront utiles à des gens qui ne croient pas. À des gens qui ne croient pas. D'accord ? Puis il dit, en surat Yassin, tu n'es fait qu'avertir que celui qui suit la vérité. le rappel et qui craint Ar-Rahman, qui craint Allah tabarak wa ta'ala bil ghaib. D'accord? C'est-à-dire celui qui craint Allah, qui craint son Seigneur alors qu'il ne le voit pas. Qui craint son châtiment alors qu'il n'a jamais vu l'enfer. Vous voyez, ça c'est le sens de bil ghaib. Donc, forcément, celui qui n'a pas dans son cœur une préparation à la guider, il ne s'est pas préparé à la guider, il n'est pas prêt, il ne veut pas se guider, il ne cherche pas à la guider, et il n'aime pas être guidé, eh bien lui, tu peux venir à lui avec tous les signes, les miracles que tu veux, il n'acceptera pas. Wal'iyadh billah. Là, c'est vraiment il y a le summum de la mécréance. Le kouf, l'inad, l'ibad, le fait de vous rejeter, malgré tout ce que tu vois devant tes yeux, tu vois toutes ces choses-là, malgré ça, tu rejettes. Subhanallah. Hein? C'est du kibr, c'est de l'orgueil. C'est un peu comme Iblis. Ces gens-là, ils sont iblissi. C'était iblissiyin. Iblis, lui, subhanallah, il a vu les anges, il a vécu avec les anges, il a vu tout ce qu'il a vu, malgré ça, regardez. Il s'est rebellé, subhanallah. Il sait très bien ce qu'Allah il est capable de lui faire. Malgré ça, il se rebelle. Il s'est rebellé contre Allah, subhanallah.
Il a vu dans le paradis.
Subhanallah. Fakadhaba wa asa. Et donc, Pharaon, il a démenti, il a discrédité le message de Moussa et il a désobéi. Aïkadhab al-khabar wa asa al-amr. Yani, qala li Moussa, innaka lasta rasoula. Bal qala ta'ala, inna rasoulakum alladhi ursila ilaykum la majnoun. Subhanallah, kayfa majnoun jaa bi hadhihi al-ayat. وهو مجنون لا مجنون هو فرعون وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى عليه السلام ولم ينقد لشرعه قوله تعالى ثم أدبر يسعى أدبر أي تولى مدبرا يسعى حثيثا سريعا أي يفسد في الأرض سريعا وقوله تعالى فحشر فنادى حشر الناس أي جمعهم جمع الناس ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه السلام فقوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى يعني لا أحد فوقي لا أحد فوقي لا الله ولا شيء لأن الأعلى اسم التفضيل من العلو كأكبر أعظم أشد فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى ليس ربكم فقط لكن ربكم الأعلى أعلى من كل الأرباب الموجودة فكان يفتخر بالأنهار نهر النيل النيل الذي كان في مصر ويفتخر بالملك الواسع يقول لقومه في ما قال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فما الذي حصل أغرقه الله سبحانه وتعالى بالماء الذي كان يفتخر به وأورث الله ملك مصر بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم عجيب سبحان الله puis il dit donc Pharaon il n'a pas cru au message de Moussa et il a désobéi. Donc il n'a pas cru, il a désobéi à l'ordre de Moussa. D'accord ? Il a dit donc à Pharaon, tu n'es pas un messager. Comme ils ont dit à Mohammed, comme ils ont dit à Isa, comme ils ont dit. Tu n'es pas un messager. Pire que ça, il a dit, votre messager qui vous a été envoyé à vous est un fou. Ce messager-là qui vous a été envoyé, c'est un majnoun. C'est un fou. Et donc il a désobéi à l'ordre et il ne s'est pas soumis à l'ordre de Moussa alayhi salam, ni à sa législation. Puis il dit, Allah, thumma adbara yasa. Ensuite, adbara el tawalla, il s'est détourné, il a tourné le dos, yasa. Il a continué à semer le désordre sur terre, hein, de manière énergique, d'accord, rapide. Puis il dit, Allah, fahashara fanada, hashara ay jama'a, il a réuni. Il a réuni qui ? Les gens. D'accord ? Les gens. Fanada. Il les a appelés. Donc, nada, il a appelé, mais à voix haute. Mais saut il mortafia, appelé à voix haute. D'accord ? Afin que cela soit. Afin que son interdiction qu'il va prononcer soit encore plus forte, d'accord ? Et percutante. Par rapport à Moussa alayhi salam. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Ana rabbukum al-a'la, le plus haut. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi. C'est ça qu'il veut dire. Le plus haut, donc, il n'y a rien au-dessus de moi. D'accord ? Même, à la limite, je suis plus haut que le soleil encore. Hein. Même le soleil, hein ? Il n'y a rien au-dessus de moi. Hein ? Non, dans le sens que... Il n'y a pas Allah. Il n'y a pas Allah, il n'y a personne au-dessus de moi. C'est moi le Seigneur. D'accord ?
Il n'y croyait vraiment pas ou c'était juste l'orgueil comme shaitan ?
Allah tabaraka wa ta'ala wa jahadu biha wa stayqanat anfusuhum. Wa stayqanat anfusuhum dhulman wa uluwa. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ils ont rejeté la vérité, d'accord, les signes, etc. Wa stayqanat anfusuhum. Alors que, au fond d'eux-mêmes, leurs personnes, leurs âmes, en avaient la certitude. Mais ils l'ont rejeté injustement et par orgueil, loua, par orgueil.
Parce qu'il n'y a qu'un fou qui peut dire ça, qui a perdu la raison.
S'il était fou, il ne mériterait pas l'enfer. D'accord ? S'il était vraiment fou, il n'irait pas en enfer. Un fou.
Bien sûr.
D'accord ? Donc il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Donc ici, l'A'la, ismu tafdil, c'est un nom qui exprime la supériorité dans un domaine. Le plus grand, akbar, quoi encore, a'zam, le plus grand, al-a'zam, al-asghar, le plus petit, al-aqwa, le plus fort, d'accord ? Ça, c'est, en français, je crois, on dit des superlatifs. Les superlatifs pour dire le plus, le meilleur aussi, d'accord. Donc ici, al-a'la par rapport à l'ulu, la hauteur, donc al-a'la le plus haut, al-asfal le plus bas, d'accord. Donc regarde comment il s'est enflé d'orgueil. Cet homme-là qui prétend pour lui-même posséder ce qu'il ne possède pas en vérité. Il a dit, je suis votre Seigneur le plus. Donc il était fier, il se vantait également de posséder les canaux, les rivières, les fleuves, le Nil qui existe encore aujourd'hui en Égypte. Tout le royaume immense qu'il possédait, il se vantait de ça. Et c'est moi le Seigneur. Qu'est-ce qui possède autant de choses que moi, hein? Donc il a dit donc à son peuple, t'as vu, dans la sourate Zukhruf, dans le sens rapproché, ô mon peuple, ne m'appartient-il pas le royaume d'Égypte, Mulk Misr, d'accord ? Et toutes ces rivières, ces fleuves qui coulent sous mes pieds, ne voyez-vous pas ? Ne suis-je pas meilleur que cette al-Mahin, en parlant de Moussa, alayhi salam, le Mahin, c'est quelqu'un qui est haqir, qui sert à rien, qui est méprisable, de ce méprisable. Ou la yakad yubin, en plus qui ne sait pas s'exprimer, qui s'exprime mal. Hein, c'est que Moussa, il avait un problème d'élocution. D'accord ? Donc il s'est moqué de Moussa, alayhi salam. C'est qui le meilleur ? C'est moi ou là ? C'est cette personne qui est méprisable. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Allah tabarak wa ta'ala, il a noyé sous les eaux. Il l'a noyé sous cette eau par laquelle il se vantait de posséder toutes ces eaux, ces canaux qui coulent sous ses pieds. Eh bien Allah, il l'a noyé dans cette chose-là avec laquelle il se vantait et s'enorgueillissait. Subhanallah. Et en plus, Allah tabarak wa ta'ala, il a fait hériter le royaume qu'il possédait, le royaume d'Égypte. Il l'a donné à qui ? Il l'a donné aux descendants d'Israël que Pharaon avait mis à l'état d'esclavage, à servir, hein, comme des moins que rien. Subhanallah. Regardez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que ça, c'est pas juste des récits qu'on lit comme si on lisait une légende ou un conte. Des fois, on lit ça à nos enfants, on dirait on leur lit une légende. Non, il faut leur lire, il faut leur apprendre aussi la morale, les enseignements, les leçons qu'il y a derrière toutes ces histoires. Hein, regardez la leçon, subhanallah. Pharaon, il s'enorgueillissait, il se montrait supérieur aux gens, il s'enflait d'orgueil parce qu'il avait toute cette eau, etc. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a noyé sous cette eau-là. Hein? Et comment il a asservi les enfants d'Israël injustement, Allah il l'a tué, il a donné tout ce qu'il possédait à ces gens-là qu'il avait asservi. Subhanallah. Kama tadin tudan, comme tu fais, on te fera. Fakhawluhu ta'ala, fa'akhadahu Allah nakal al-akhirati wal-ula. Akhadahu Allah ta'ala, akhda aziz muqtadir. نكال الآخرة والأولى يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة هنا. فكل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان فصار أهون على الله تعالى من كل هين. قوله تعالى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له عبرة لمن يخشى أي يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة فيسلك سبيل المرسلين ويتجنب طرق الكافرين. طيب. Puis il dit, Allah tabarak wa ta'ala, et Allah jalla wa ala l'a saisi de la punition de l'au-delà et de ici-bas et d'ici-bas. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a saisi, il a puni, d'accord ? Une punition, yani, d'un aziz, d'un puissant. Allah il est aziz, il est muqtadir. Rien ne lui est impossible. C'est-à-dire qu'il a été puni dans l'au-delà. D'accord ? Il est puni déjà en ce moment, il est dans l'au-delà. Il est ici, bah, sur terre aussi, il a été puni. Donc c'est une leçon à son époque, ça a été une leçon à son époque. Les gens qui ont vécu à son époque, ils ont vu ce qui s'est passé et ce qu'il a reçu comme punition de la part d'Allah. Imaginez-vous, subhanallah. Imaginez-vous un peu les gens qui vivaient à son époque, avec tout le mal qu'il a fait et tout, et quand il. Soit ils ont vu, soit ils ont entendu ce qui s'est passé. Comment Pharaon a été noyé. Il a été noyé, il est mort sous les eaux. Il a perdu tout son royaume. Et ce royaume-là, il est allé aux enfants d'Israël. Imaginez-vous un peu, vivant à cette époque-là, le choc de l'information. Subhanallah. Donc c'est un exemple déjà à cette époque-là. Un exemple, même jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, c'est un exemple. C'est une leçon. Tous ceux qui lisent les livres d'Allah, tabarak wa ta'ala, et qui lisent ce qu'Allah, jalla wa ala, comment il a châtié Pharaon, normalement, c'est une leçon pour lui. Il doit le prendre comme une leçon, une morale. Comment Allah, tabarak wa ta'ala, il a châtié, malgré le royaume immense qu'il possédait. Hein? Non. Ces gens-là, Allah, jalla wa ala, il fait ce qu'il veut. En aucun cas, ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent posséder l'armée qu'ils veulent, les bombes atomiques qu'ils veulent. Allah, il fait ce qu'il veut. Si Allah, il veut les supprimer du jour au lendemain, Allah, il les supprime. Hein? Cela est très facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, « Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. » Ceci est une leçon. Hein? Ceci est une leçon, certes, pour celui qui craint Allah, qui est la khashia. Donc ceci, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, l'envoi de Moussa à Pharaon, le dialogue qu'il a eu avec Pharaon, les discussions qu'il a eu avec Pharaon. Tu peux regarder, s'il te plaît, Hassan. Istihtarun, avec un ha. Avec un ha. Istihtarun. Donc, comment le dialogue qu'il a eu avec Pharaon, le mépris, mashallah, barakallahu fik. Le mépris, istihtar, le mépris de Pharaon à l'encontre de Moussa, l'orgueil, son refus d'obtempérer, etc., etc. Tout ça, c'est une leçon pour celui qui a la khashia, qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord ? Qui craint Allah, qui médite sur ça. C'est ça aussi la clé. C'est la méditation, déjà, c'est la crainte. Quand tu crains Allah, quand tu lis ces histoires et que tu médites ensuite sur ce qui s'est passé, vraiment. D'accord ? Entre Moussa, avec Pharaon, et l'aboutissement de tout cela. Donc, il faut méditer sur ça et le prendre comme une leçon afin de prendre le chemin des messagers et de s'éloigner du chemin des kuffars. C'est ça le but ultime. Prendre ça comme exemple et donc du coup prendre le chemin de Moussa, le chemin de Isa, le chemin de Muhammad, d'Ibrahim alayhi salam, et de s'éloigner au maximum du chemin de Pharaon, d'Iblis, de Abu Lahab, tous ces gens-là qui sont cités dans le Coran, y compris le chemin du kufr. D'accord ? Donc, والعبر في قصة موسى كثيرة. قال الشيخ ولو أن أحدا انتدب لجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا وذلك بأن يأتي بالقصة كلها في كل الآيات لأن الصور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسردها هكذا كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون كيف قال لهما مثلا فقولا له قولا لينا مع أنه مستكبر خبيث سبحان الله وكيف كانت النتيجة وكيف كان موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة يترقب وصارت العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم ولموسى عليه السلام لكن العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وأصحابه. عذب الله أعداءهم بأيديهم هم بأيدي الرسول وبأيدي الصحابة، وعاقبة موسى بفعل الله، بفعل الله عز وجل، فهي عبر يعتبر بها الإنسان ويصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. Puis il dit, donc les leçons dans le récit de Moussa alayhi salam sont très nombreuses. C'est pour cela, dit le cheikh, si une personne prenait l'initiative, par exemple, de réunir toute l'histoire de Moussa, tous les versets du Coran justement qui relatent le récit de Moussa alayhi salam. Dans chaque sourate, il extrait dans chaque sourate tous les versets qui raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. D'ailleurs, et de tous ces versets, il en tire les leçons. Il tire les leçons, les fawaïd, les leçons de tous ces versets-là. Il dit cela serait vraiment une très belle action, une très bonne chose. D'accord ? Venir ramener tous ces versets-là. Parce qu'il dit, les chers, tous les versets, il se peut qu'il y ait dans certains versets ou certaines sourates des anecdotes de l'histoire de Moussa que tu ne trouves pas dans d'autres sourates. Donc le fait de les réunir, tu complètes toutes ces informations-là les uns avec les autres, et après tu en extrais les leçons, les enseignements. T'as vu? Non. Par exemple, comment Allah tabarak wa ta'ala il a envoyé Moussa à Pharaon, quel comportement il lui a demandé d'adopter, quelles paroles il lui a demandé de dire et comment les dire. Comme par exemple lorsque il leur a dit à lui et à son frère Haroun, faqoula lahu qawlan layyinan, et dites-lui une parole douce, layyinan, gentille, douce. Taïe, bien que Pharaon était le plus grand des orgueilleux ou l'un des plus grands orgueilleux, personne mauvaise, malgré ça Allah tabarak wa ta'ala, regardez comment il a envoyé Moussa et Haroun et leur a dit, dites-lui une parole douce. Allahu Akbar. Comment aussi a été le résultat, l'aboutissement de tout ça? Comment Moussa alayhi salam aussi est sorti de Misr, alors qu'il vivait, à la base il vivait, hein, avec les, on va dire, les hauts placés, il a été élevé par les hauts placés, etc. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'il ait. Il est sorti lui-même de Misr, il s'est échappé, il s'est enfui, khaifan, apeuré pour sa vie, il avait peur pour sa vie d'être tué, il était à la top, parce qu'il s'attendait à ce qu'on le poursuive pour le tuer, il savait qu'on allait le poursuivre pour l'assassiner et le tuer. D'accord ? Donc là, on voit que la peur n'est pas forcément du shirk. Hein? C'est la preuve. Donc Moussa, alayhi salam, est sorti, Allah a dit, khaifan. Il est sorti apeuré. Mais bien sûr, cette peur-là était une peur normale, une peur naturelle chez l'être humain. Car il savait ce qu'on pouvait lui faire comme mal. D'accord ? Qui est donc la sentence de mort. D'accord ? Par contre, le fait d'avoir peur de la créature, d'une chose qu'elle ne peut pas te faire, par exemple, je sais pas moi, te rendre aveugle, te rendre malade, ou la créature elle est morte, toi tu as peur que le mort te fasse du mal. Ça c'est une peur qui est chirkie, c'est du shirk. D'accord ? Mais le fait d'avoir peur de quelque chose, et tu sais que la chose elle est capable de te dévorer, un lion il te dévore, c'est une peur, c'est pas du shirk ça, d'accord ? Non. Taïb. Et bien sûr, toujours avec la permission d'Allah. C'est la peur des djinns. Le fait d'avoir peur des djinns. Parce que tu sais que les djinns, yani, des fois, ils peuvent te faire du mal. Les mauvais djinns, les shayatin. Mais du moment que tu sais qu'ils ne peuvent rien te faire sans la permission d'Allah, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait d'avoir peur d'eux, et tu crois qu'ils te font du mal en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala, et qu'Allah, jalla wa'ala, il n'a pas d'influence, et il ne peut pas te protéger de eux, alors c'est du shirk. Tu vois la différence entre les deux?
En fait, fait, non, parce que la question que je me pose, c'est la peur des djinns, est-ce que c'est une peur naturelle ou surnaturelle?
Non, c'est naturel. Les djinns, ce sont des créatures qui existent. Qui existent. En fait, c'est sauf que tu les vois pas, c'est tout, mais ils existent. La seule différence entre un animal féroce qui est devant toi et un djinn, un shaitan qui peut te faire du mal, c'est que shaitan, tu ne le vois pas, c'est tout. Donc la peur, elle est présente quand même, tu sais ce que, tu vois. Mais, bien sûr, du moment que tu sais qu'elle peut rien te faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une peur qui est condamnable. D'accord ?
Si, dans le cas où on a peur de quelque chose, qu'on a la science, que si un lion il peut nous faire, il peut nous manger par exemple. Et qu'on ne se dit pas que, avec la permission d'Allah, est-ce que notre peur devient du shirk ?
Mais bien sûr, parce que là du coup, tu ne mets pas au-dessus de la capacité du lion la capacité et la puissance d'Allah. Là ça devient du shirk. Parce que le lion ne fait rien sans la volonté d'Allah. Personne ne fait rien sans la volonté d'Allah.
Même si c'est un
oubli,
ça compte comme.
C'est-à-dire un oubli.
Si on n'y pense pas, par exemple. Je sais pas, il y a un truc qui se passe dans notre vie, on risque un danger. Et on ne pense pas que c'est par la permission d'Allah. On se dit rien, en fait. On a juste peur sur le coup.
De là, mais dans ta croyance. La croyance de tous les jours, tu sais que rien ne se passe sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. D'accord ? Mais, malgré ça, il faut que l'être humain soit constamment attaché et connecté à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Il ne convient pas à l'être humain de ne pas penser à Allah. Même dans les moments les plus graves, les plus urgents, toujours il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Direct. Automatiquement. C'est un réflexe. Vous voyez ?
Ça va en fonction de la foi de la personne. De se mettre en condition sur le moment de.
Oui, bien sûr, tout ça encore, c'est ta relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala et ta façon de méditer, de réfléchir. Tu vois, par exemple, quand tu pries, une personne qui prie, qui est concentrée, qui est méditée du début à la fin, quand il récite, quand il invoque, quand il dit des afkar, lui, forcément, même dans la vie de tous les jours, eh bien, il aura cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il lit le Coran, il médite, il réfléchit. Il est présent dans les assises de science. Mais celui qui ne réfléchit pas dans sa prière, qui ne médite pas, quand il lit, il ne médite pas. Quand il y a des cours, il ne s'assied pas. Forcément, lui, il va avoir du mal à penser à Allah, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc là, le musulman, il doit avoir cette croyance-là que rien ne se passe dans ce monde. Même le shirk. Si Allah il veut, il fait qu'il n'y ait pas de shirk sur terre. Donc le shirk, quand il est produit par l'être humain, il ne se produit que sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
La volonté al-kawniya.
Al-kawniya, ahsant. Taïb, la volonté universelle, existentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ça ne veut pas dire qu'Allah il aime, d'accord ? Ça veut dire qu'Allah il a laissé la chose être faite, et c'est lui qui l'a créée. Non. Taïb. Donc Moussa il est sorti un peu riz, comme le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti aussi de Mecca et Taraqqa en sachant qu'on allait le poursuivre pour le tuer. D'accord ? Comment le prophète Moussa a fini ? Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa vie ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Au paradis, alhamdoulilah. Sauf qu'il dit les cheikhs, la différence entre le prophète Moussa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à combattre ses ennemis en les combattant justement. D'accord ? En se défendant, en combattant Quraysh, Kuffar, etc. Lui et ses compagnons. Tayyib. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a puni le Kuffar qui combattait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais des mains du prophète lui-même et par le biais des mains des sahaba eux-mêmes, alors que Moussa alayhi salam, ils n'ont pas eu à combattre. Moussa n'a pas combattu comme il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala, il a châtié Pharaon et son armée avec le châtiment qu'il a utilisé. D'accord ? Na'am. Donc tout ça, c'est des leçons que l'être humain doit prendre en compte jusqu'à réformer son âme, purifier son cœur, réformer son cœur, d'accord, jusqu'à ce que l'affaire lui soit claire et évidente et qu'il profite pleinement du coup de tous ces récits qu'on trouve dans le Coran. Tous les récits, que ce soit le récit de Moussa, de Isa et de tous les messagers et les prophètes qu'on trouve dans le Coran al-Karim. Alhamdulillah. سننهي هذا الدرس بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم